La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver pour ce premier numéro d'une nouvelle série de la Compagnie des auteurs jusqu'à jeudi, en écho au 18e Printemps des poètes qui se tient en ce moment. Nous parlons de Louis Aragon. Et c'est un peu une gageure que de faire tenir Louis Aragon en 4 fois 1 heure, car sa vie, tout comme son œuvre, est touffue, complexe, riche, sujette à interprétation et à digression sans fin, car l'homme a avancé masqué et embrassé tous les remous de l'histoire, deux guerres, plus une guerre froide si l'on peut dire, des amours nombreux et orageux, et cela d'un sexe à l'autre, sans parler de l'histoire de la littérature à laquelle il a participé grandement, lui qui ne détestait pas l'idée de faire partie des avant-gardes. De ses romans, nous parlerons en particulier jeudi avec Daniel Bougnou qui les a édités dans la Pléiade. Mercredi, nous irons voir l'ancien député communiste Jack Ralit qui nous parlera de son Aragon, forcément un peu politique. Il sera suivi en seconde partie par le critique littéraire Pierre Lepape. Enfin, demain, nous interrogerons la poésie d'Aragon et la place que sa femme Elsa a pu y tenir. Quant à aujourd'hui, eh bien, il ne nous reste plus que tout le reste. Tout le reste, c'est-à-dire les très nombreux thèmes abordés par Philippe Forest dans sa biographie monumentale d'Aragon, parue chez Gallimard en septembre dernier. Philippe Forest, qui est, vous le savez, romancier et essayiste, spécialiste de Solers, de l'histoire de telle qu'elle, et également donc d'Aragon, cet écrivain qui disait, un peu étrangement d'ailleurs, qu'être un homme, c'est infiniment tomber.
Je n'imagine pas ce que j'aurais été si je n'avais pas été écrivain. Le fait est que quand j'étais enfant, quand j'avais 5-6 ans, enfin, j'écrivais déjà. J'ai commencé à écrire avant de savoir écrire, je dictais à mes tantes. Mais par la suite, on a tout fait pour me détourner d'être écrivain. Et j'ai cru d'ailleurs que j'en serais détourné, et puis je me suis trouvé l'être. Par conséquent, vous me dites, vous n'auriez pas dominé votre destin si ce n'était par l'écriture, mais mon destin et l'écriture, ça a toujours été une seule et même chose.
Bonjour Philippe Forest.
Bonjour.
Mon destin et l'écriture, ça a toujours été une seule et même chose, dit Aragon, et vous êtes bien placé pour démentir ou pour confirmer cette affirmation.
Ah, je confirmerai plutôt. En tout cas, moi, c'est la perspective que j'ai choisie pour parler d'Aragon, parler d'abord de lui en tant qu'écrivain, parce que je crois que c'est surtout en tant qu'écrivain qu'il a toujours des choses à nous dire.
Mais vous n'évitez pas la biographie, bien au contraire, vous racontez tout.
Oui, enfin je raconte tout, non, mais je raconte ce qui a pu tenir dans un gros livre dont il était indispensable qu'il ne fasse pas plus de 800 ou 900 pages. Donc j'ai dû choisir, j'ai dû trier, j'ai dû hiérarchiser surtout les faits, mais j'essaye en tout cas de dire l'essentiel. Et l'essentiel c'est les livres, mais également ce qui les a accompagnés, oui.
Ah, vous vous êtes retenu pour ne pas faire plus de 800 pages?
Ah, j'ai dû couper, oui, oui, la première version faisait, je sais pas, 1200 pages, quelque chose comme ça.
Il y a beaucoup de choses, du coup, qu'on ne peut pas connaître à cause de ces coupes-là.
Oui, sans doute, mais je pense que le mérite essentiel d'un livre, c'est d'être lisible. Et au-delà d'une certaine longueur, on perd ses lecteurs. Donc, je suis heureux d'avoir coupé. Je pense que c'était indispensable de le faire.
Alors, être un homme, c'est infiniment tomber. Je citais Aragon dans la présentation de cette émission. Comment est-ce que vous comprenez cette phrase de la part d'un homme dont on ne peut pas dire, comme ça, a priori, que sa vie ait été un désastre, pour reprendre une autre de ses expressions?
Pourtant, lui il le disait à la fin. Il y a un texte fameux qui s'appelle « La valse des adieux » et dans lequel il confesse avoir gâché sa vie. J'avais publié il y a quelques années, et à l'époque je pensais que ce serait mon dernier livre sur Aragon, un recueil de textes aux éditions Cécile Defaux que j'avais intitulé Vertige d'Aragon. Je crois que le mot clé pour comprendre Aragon, c'est celui de vertige. Il a toujours été attiré par le vide et il a résisté à ce vide qui l'attirait aussi. Non, je crois que c'est vraiment une des clés essentielles de ce personnage et ça explique beaucoup de choses dans son œuvre et dans sa trajectoire, cette fascination, ce désir de se perdre finalement. Il disait lui-même hein, que finalement il fallait se perdre, comme si c'était en se perdant qu'on se trouvait véritablement. Voilà.
Dans quoi on le voit chez lui, cet attrait pour le vertige ?
Il a utilisé le mot vertige, par exemple, au moment du surréalisme. Il a défini le surréalisme comme un vertige. Et il a à nouveau défini son expérience de l'Union soviétique comme un vertige, l'appel du vide, en fait. Le moment où on se confronte au néant et on a le sentiment que tous les repères sur lesquels on pouvait compter s'effacent. Je crois que c'est assez ce qu'on attend de la littérature, de la poésie, du roman.
Mais c'est aussi pour vivre intensément.
Oui, c'est ça, oui, c'est une recherche de l'intensité, au risque, encore une fois, de se perdre. Aragon est quand même quelqu'un qui a été assez courageux tout au long de sa vie, c'est-à-dire, il n'a pas hésité à recommencer sa vie plusieurs fois, à brûler ses vaisseaux, à jouer, comme on dit, à qui perd gagne. Voilà, il y avait un côté joueur chez lui, un joueur qui aimait à prendre des risques, parce que c'est sans doute à travers les risques qu'on prend qu'on se sent véritablement exister.
Courageux ou flambeur ?
Les deux, oui. Non, il y a aussi un côté cabotin chez Aragon qui devait le rendre parfois difficilement supportable. Flambeur, oui aussi, oui. Oui.
Alors votre somme, 800 pages, donc à l'arrivée, il a tout de même fallu que vous aimiez beaucoup Aragon pour vous y consacrer, puisque vous venez de dire que, a priori, vous aviez terminé votre travail sur Aragon. Qu'est-ce qui a fait que l'homme vous a donné envie, ou l'œuvre peut-être, de vous replonger, et pas qu'un peu, après deux autres biographies, celle de Pierre Dex et celle de Pierre Juquin? Donc ça veut dire qu'il y a quand même vraiment quelque chose entre vous et Aragon.
Oui, enfin, à vrai dire, ce sont un peu les circonstances qui m'ont conduit à faire cette biographie. Ça faisait très longtemps que Gallimard souhaitait avoir une biographie d'Aragon, parce qu'Antoine Gallimard est attaché à cet écrivain, qui a été le premier dont il s'est occupé lorsqu'il est devenu éditeur dans les années 70. Et puis aussi, c'est l'un des grands auteurs de la maison. Et pour des raisons diverses, les projets précédents avaient tous avorté, échoué. Et donc, on m'a demandé, sachant que je connaissais bien l'œuvre d'Aragon, parce que j'avais collaboré à l'édition Pléiade des romans et des poèmes, on m'a demandé si j'accepterais de me lancer dans cette aventure, et peut-être justement par goût du challenge.
Oui, mais l'homme, quand même, il doit plus que vous intriguer.
Oui, je me sens très éloigné d'Aragon à bien des égards, mais en même temps, il y a toujours, quelque chose de profondément admirable dans son œuvre. Moi, je considère qu'il est l'auteur de quelques-uns des très grands livres du XXe siècle, notamment le Paysan de Paris et quelques autres. Et puis, il y a quelque chose de vraiment intrigant et de respectable dans son parcours et dans son personnage. Et donc, moi, j'ai toujours pensé que ce qui était intéressant, c'était plutôt ce qu'on ne comprenait pas davantage que ce qu'on comprend trop bien. Et avec Aragon, on est servi parce que c'est vraiment un personnage à bien des égards énigmatique, et je le dis à plusieurs endroits de la biographie, je ne prétends pas dire le fin mot de l'affaire, je ne prétends pas lever le secret, mais j'essaye de donner au lecteur les éléments pour apprécier ce personnage mystérieux qu'était Aragon.
Alors justement, le secret, c'est bien le mot-clé de la vie d'Aragon, qui a pas mal romancé sa vie. Est-ce que justement ce n'est pas sous ce signe-là et dès l'enfance qu'il faut lire la trajectoire d'Aragon sur Terre ?
Oui, c'est certainement essentiel. Cela dit, j'essaye un peu de nuancer le propos. Il faut rappeler peut-être quelques éléments indispensables à la compréhension de ce qu'on est en train de dire. C'est qu'Aragon, en fait, naît dans une configuration familiale extraordinairement singulière.
En 1897.
Et on n'est pas trop certain du jour, parce qu'en fait, on ne le déclare pas plutôt. Il grandit en s'imaginant, parce qu'on le lui dit, qu'il est le fils d'un homme et d'une femme qui sont morts, lui-même ayant vu le jour à Madrid en Espagne, ce qui est totalement faux. Et il aurait été adopté, lui dit-on, par la famille dans laquelle il grandit, qu'on lui présente donc comme étant sa famille adoptive, alors qu'elle est en réalité sa famille biologique. On le présente comme étant le fils adoptif de celle qui est en réalité sa grand-mère, le frère adoptif de celle qui est en réalité sa sœur, et le filleul de celui qui est... De sa mère, vous voyez, je m'y perds moi-même. Donc le frère adoptif de celle qui est en réalité sa mère, et le filleul de celui qui est en réalité son père, et qui n'a pas pu le reconnaître parce qu'il est né... comme un enfant adultérin, disait-on à l'époque. Son père est un homme politique éminent qui s'appelle Louis Andrieux, qui est marié, qui a des enfants, qui a pris pour maîtresse donc Marguerite Toucas, la mère d'Aragon.
30 ans de moins, à peu
près. Voilà, et pour cette raison-là, le secret doit être conservé. Et le plus étonnant dans l'histoire, c'est qu'Aragon prétendra qu'il n'a appris la vérité sur ses origines, donc il n'a su qui était véritablement son père et sa mère qu'à l'âge de 20 ans.
Et ce patronyme, Aragon, totalement inventé,
oui.
Est-ce qu'on sait pourquoi on a choisi ce nom-là ?
Oh, bah, y a plusieurs hypothèses qui ont été mises en avant. Louis Andrieux avait une fascination pour l'Espagne, dont son fils va hériter.
Oui, parce qu'il aurait pu dire qu'il était adopté d'un Allemand, d'un Italien, mais ça a été l'Espagne.
Voilà, il avait été ambassadeur de France en Espagne, Louis Andrieux, brièvement. Il avait dans son entourage, à l'époque où il était préfet de police, a découvert il y a quelques années un historien, un homme qui s'appelait Aragon, donc peut-être lui a-t-il pris son nom. Voilà, on n'en sait trop rien en vérité.
Mais du coup, est-ce qu'il y a... un rapport avec ce pays chez Aragon qui a dû, pendant les premières années de sa vie, s'imaginer des ancêtres espagnols, alors qu'en fait, ses ancêtres sont juste à côté de lui.
En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que dans la suite de sa vie, il va manifester un intérêt constant pour l'Espagne, notamment au moment de la guerre d'Espagne. Hein, et il va aller avec Elsa Triolet en Espagne. Il va prendre fait et cause pour les républicains espagnols. Et puis, l'un de ses plus grands livres poétiques, Le fou d'Elsa, qui paraît dans les années 60, se déroule à Grenade au moment où Grenade tombe.
Mes parents avaient une pension de famille entre 1899 et 1904, où il n'y avait pas l'électricité, où il n'y avait pas le téléphone, où il n'y avait guère le gaz que dans la chambre de ma mère, et où nous nous éclairions avec des lampes à pétrole. Dans cette avenue qui était alors comme elle l'est toujours maintenant, une avenue plantée de catalpas. Et je jouais enfant sous ces catalpas à toutes sortes de jeux auxquels le vaste monde était associé, avec l'enfant d'une fruitière voisine, je crois, que ma famille n'aimait pas du tout me voir fréquenter. On me chassait de cette petite fille qui avait à peu près mon âge, en disant qu'elle était vulgaire, qu'elle m'apprenait des gros mots. Après quoi, je montais chez ces demoiselles étrangères qui m'apprenaient bien autre chose.
Aragon qui parle d'une enfance dans la quasi-pauvreté, Philippe Forest, alors que son père biologique est député. C'est vrai ça, c'est du roman ?
C'est très difficile de faire la part du vrai et du faux. Il est clair qu'Aragon réinvente sa vie quand il la raconte et il a tendance à insister un peu, il le reconnaît d'ailleurs lui-même, sur le caractère misérable de son enfance. Il se présente un peu comme un paria, donc du fait de ses origines scandaleuses, grandissant dans une famille frappée par la pauvreté. Il y a du vrai et il y a du faux. Enfin, disons qu'Aragon était quand même, me semble-t-il, issu d'un milieu bourgeois, même si sa famille, c'est vrai, avait fait l'épreuve du déclassement, parce que c'est un autre élément du roman familial d'Aragon. Son grand-père, donc celui qu'il prenait J'attendais, je réfléchis à deux fois parce que c'est tellement compliqué. Oui, son grand-père biologique qu'il prenait pour son père adoptif avait, avant qu'il soit né, avait abandonné sa famille pour fuir vers l'Empire ottoman et y refaire sa vie. Et donc c'est vrai que la famille d'Aragon, avant donc la naissance d'Aragon, s'est retrouvée dans le plus total dénuement. Il a fallu à la future mère d'Aragon aller travailler au bon marché, etc. Ce qui était à l'époque un indice de déclassement social. Ouais.
Donc on romance sa vie depuis des générations chez les Aragon, et ce grand-père dont vous parlez, dont il parle d'ailleurs dans Les Voyageurs de l'Impérial.
Voilà, il dit que c'est le modèle de Mercadier, le héros des Voyageurs de l'Impérial.
Donc il est parti en Turquie, il était devenu une sorte de mania des jeux, c'est ça?
Oui, c'est ce que raconte Aragon, oui.
Et quand il revient en 1915, il rencontre son petit-fils.
Oui.
Et là, son petit-fils, Aragon, dit que ça a été pour lui comme un trou dans le bruit.
Oui, il le voit à cette seule occasion, si je me rappelle bien, dans un café. Donc Aragon accompagne sa mère qu'il prend pour sa sœur, et il voit ce vieil homme abattu, ruiné, qui est contraint de revenir solliciter l'aide de la famille qu'il a abandonnée, parce qu'il est désormais dans le plus total dénuement, et il va vivre les dernières années de sa vie dans une misère sans doute assez profonde. Donc, quand on parlait du goût d'Aragon pour les âmes qui tombent, je crois que ça lui vient aussi sans doute de ce spectacle-là, c'est-à-dire ce qui est advenu aux gens qui l'entouraient, aux gens de sa famille.
Et puis, le roman, c'est aussi le roman de ses parents, dont on ne sait finalement rien, ou si peu.
Oui, on ignore l'essentiel. Bon, il y a eu quelques chercheurs qui ont produit des livres très très fouillés qui permettent d'en savoir un peu plus, mais pas l'essentiel, pas ce qu'on aimerait savoir. Si on ne sait pas très bien comment s'est nouée la liaison entre Louis Andrieux et Marguerite Toucas, et on ne sait pas très bien, mais le sait-on jamais, ce qui s'est passé entre eux. En général, les biographes antérieurs d'Aragon, les spécialistes d'Aragon, avaient tendance à être très sévères à l'égard de Louis Andrieux. Peut-être que je le suis un peu moins qu'eux, et il y a quelque chose d'assez étonnant dans ce couple illégitime qui vivait malgré tout sa liaison au vu et au su de tout le monde. Par exemple, Louis Andrieux était accompagné du petit Aragon lorsqu'il se rendait à la Chambre des députés.
Son neveu, bien entendu, voilà, son filleul, je sais pas.
Mais qui était dupe vraiment, à part Aragon lui-même, je n'en sais rien. Et lorsque Louis Andrieux est mort, c'est sa vieille maîtresse qui l'a veillé jusque dans ces derniers jours.
En tout cas, ce qui compte de toute façon dans la vie d'Aragon, on l'a dit, ce sont les livres. Et cet intérêt pour l'écriture naît extrêmement jeune, à tel point qu'on se demande là aussi dans quelle mesure on peut croire au fait qu'il aurait composé à l'âge de 6 ans son premier roman.
Il raconte ça dans un livre formidable qui est assez peu lu finalement, qui s'appelle « Je n'ai jamais appris à écrire » ou « Les incipits ». Et il raconte donc comment, tout petit, il s'est mis à composer des livres qu'il dictait, bon, on l'a entendu tout à l'heure, qu'il dictait d'abord à ses tantes et ensuite qu'il a écrit lui-même. Alors, on pourrait imaginer que c'est totalement faux, mais il se trouve qu'on a retrouvé, enfin on a conservé le manuscrit d'un de ses petits textes, qu'Aragon d'ailleurs a publié à l'époque dadaïste, sans rien y changer, dit-il, sauf l'orthographe qu'il avait corrigé, et de manière à montrer que les exercices enfantins auxquels il se livrait étaient à leur manière des exercices un peu expérimentaux, comme ceux que l'avant-garde dadaïste développé à l'époque.
Donc en sixième, une soixantaine de romans avec...
C'est ce qu'il dit.
Ouais, c'est ce qu'il dit, mais on n'a pas retrouvé tous
non.
les...
Non, on a retrouvé un texte.
On n'a pas retrouvé tous les cahiers. Un mot peut-être sur cette nouvelle intitulée Le Mentir Vrai, qui est plus qu'un témoignage fidèle sur l'enfance d'Aragon, c'est un redoutable exercice d'intelligence critique, écrivez-vous, Philippe Forest.
Oui, parce que Aragon est, à mon avis... C'est un peu sous l'influence de Sartre, parce que Le Mentir Vrai est écrit juste après Les Mots, et Aragon a toujours
donc
été...
Donc il raconte ses souvenirs voilà. d'enfance, en
vrai. C'est ça. Mais simplement, tout en les racontant, il déconstruit le récit qu'il en propose. Si bien qu'il y a deux voix qui alternent dans ce texte, la voix de l'enfant supposé, et la voix de l'adulte qui vient commenter les pseudo-souvenirs d'enfance que le texte contient.
Et ça, c'est un manifeste d'écriture ?
Ah, certainement. Bon, on fait beaucoup de cas, et à juste titre, de cette expression, le mentir vrai. Simplement, en général, c'est un peu pour en tenir rigueur, en quelque sorte, à Aragon. Si on insiste plutôt sur le mot mentir, sur le verbe mentir, que sur l'adjectif vrai. Or, Aragon a toujours insisté sur le fait que le mensonge, pour lui, servait de support, de substrat à la vérité. Donc, on ment, mais on ment pour dire vrai.
Donc, c'est cette idée que la littérature, au fond, dit plus de choses que la biographie, que les faits, que la chronologie.
Ah oui, bah comme tous les écrivains, Aragon est convaincu que la vérité, elle est ce à quoi la littérature seule peut viser et atteindre.
J'en pense qu'il est arrivé à un homme qui a eu 20 ans pendant la guerre de 14-18 et qui en avait 42 quand a commencé celle de 39. C'est-à-dire que j'ai donc fait deux guerres, comme on dit, et pour moi, ce n'est pas simplement un phénomène, mais un fait. Je ne crois pas qu'il y ait des fous qui, ayant passé par deux guerres, peuvent avoir le désir d'en voir une troisième. Et je ne crois pas non plus que je puisse dire des choses bien subtiles sur ce sujet. Et la guerre, c'est un phénomène qui, par lui-même, est d'une telle grossièreté. On n'en saurait d'en parler que grossièrement. Si vous demandez s'il pourrait y avoir un jour un monde dans lequel il n'y ait pas de guerre, enfin, tout ce que vous savez de moi doit vous apprendre que je me comporte comme si je le pensais.
Vous écoutez toujours La Compagnie des auteurs au premier jour de notre semaine consacrée à Louis Aragon, avec Philippe Forest, auteur d'une biographie d'Aragon sortie en novembre dernier chez Gallimard. Alors la guerre, c'est bien sûr une toile de fond de la vie d'Aragon, puisqu'il a 16 ans quand la première guerre éclate. Et cette guerre, il va commencer par la vivre de loin, en entretenant avec elle des rapports plutôt ambivalents, Philippe Forest.
Oui, ambivalent et surprenant pour cette raison-là, parce que d'un côté, il dénonce la guerre, comme il le fera plus tard, hein. Il sait de loin ce qu'est sa monstruosité, mais en même temps, il est exalté, comme beaucoup d'autres jeunes gens à l'époque, à la perspective de partir. Et il va faire la guerre, finalement. Il est mobilisé à la toute fin du conflit, mais à un moment où, justement, le conflit redouble de violence.
Mais alors, il n'ira à la guerre, engagé volontaire d'ailleurs, il faut le souligner.
C'est-à-dire, en fait, il se porte volontaire pour partir au front, mais il avait été mobilisé comme tous les jeunes gens de sa classe. Oui,
oui, mais il aurait pu éviter le feu, disons.
Oui.
Et vous dites qu'il va y prendre part de manière assez héroïque.
Oui, c'est-à-dire, il y a une journée qui est assez extraordinaire, qu'il a racontée à plusieurs reprises, et déjà dans l'un des poèmes de son premier recueil, Feu de joie, il est enseveli la même journée à trois reprises du fait du bombardement auquel son unité est soumise, et à tel point d'ailleurs qu'on le donne pour mort. Et Aragon raconte qu'on a enterré sous son nom un de ses camarades, par erreur donc, à tel point que, et ça c'est un des plus beaux poèmes du roman inachevé, lorsque la troupe repasse, puisque le front n'arrête pas de bouger à proximité de l'endroit où les événements ont eu lieu, Aragon voit un cimetière qui vient d'être creusé pour enterrer les dépouilles de ses camarades, et sur l'une des croix, c'est son propre nom qu'il voit.
Donc cette guerre qu'il refuse, mais en même temps qu'il attire, et dont il dira aussi qu'il ne s'est jamais senti aussi heureux que pendant cette guerre.
Oui, parce que, mais on trouverait la même chose, par exemple, chez son grand ami de l'époque, enfin un peu plus tard, Audrieux La Rochelle. Il y a un sentiment d'exaltation qu'il confesse. Exaltation et en même temps réprobation, bien sûr, mais les deux sont liés, oui.
Et ces grands romans de la trilogie du monde réel, particulièrement Les cloches de Bâle et Les beaux quartiers, exposent comment, selon lui, cette guerre était une résultante logique de l'impérialisme capitaliste. Donc il y a déjà une vision plus globale, au fond, de ce que c'était que cette guerre.
Oui, dans les premiers textes, c'est-à-dire ceux de la période dadaïste et surréaliste, Aragon choisit de ne pas parler de la guerre parce que, justement, il veut se démarquer du discours ancien combattant qui est en train de se développer chez les écrivains. Et donc son premier roman, qui s'appelle Anicet ou le panorama roman, qui a été écrit, qui a été commencé sur le front, n'a ne contient aucune allusion aux événements qui viennent d'avoir lieu. En revanche, dans les années 30, effectivement, quand il passe au roman réaliste socialiste, il va développer tout un discours qui est très imprégné de Lénine, en fait, sur la logique impérialiste et capitaliste qui aurait poussé les unes contre les autres les puissances européennes. Et c'est quand même assez significatif que tous les grands romans réalistes d'Aragon s'achèvent par la guerre.
À ce moment-là, il était ami avec Drieu La Rochelle.
Oui.
Et on imagine que leur conversation, quand il parlait de la guerre, était plutôt sur le mode de l'exaltation que sur le mode de la dénonciation capitaliste. Vous avez réfléchi à ce qu'ils pouvaient se dire à ce moment-là, ses meilleurs amis?
À mon avis, ils parlaient peu de la guerre et ils parlaient surtout des femmes, parce que pendant cette période-là, ils avaient une vie assez agitée, une vie nocturne assez agitée, et je pense que c'est plutôt ce qui les excitait. Voilà. Peut-être de littérature aussi, soyons honnêtes, mais sans doute surtout de femmes. Oui.
Donc sa guerre, il n'en parle finalement pas beaucoup, un petit peu et de manière étrange dans La Semaine Sainte, qui est un roman qui pourtant se passe au début du 19e siècle.
Oui, parce qu'à un moment, en racontant donc l'épisode des 100 jours, La Semaine Sainte raconte la fuite de Louis XVIII qui quitte Paris en direction de la Belgique à mesure que Napoléon donc remonte vers le nord, remonte vers Paris. Et donc c'est l'exode en quelque sorte de ce roi accompagné par le peintre Géricault. Mais à un moment, comme il le fait souvent, Aragon laisse en plan son intrigue parce que il décrit un paysage du nord de la France et il dit tout à coup, ça a beaucoup frappé quelqu'un comme Kundera qui en parle d'ailleurs, il dit ce paysage-là, mais je le reconnais, c'est celui que j'ai vu moi-même lorsque j'étais soldat d'une autre armée en déroute. Et à partir de là, on bifurque brutalement de 1815 à 1940. Et c'est à la faveur de cette digression-là que Aragon raconte ce que fut non pas sa Première Guerre mondiale, mais la Deuxième Guerre mondiale, parce que il a quand même appartenu à une génération qui a vécu cette expérience assez étonnante d'être deux fois mobilisé. Il y a un très beau poème du Crève-Cœur là-dessus. Il a été mobilisé à 20 ans, il était l'un des plus jeunes, et il a été mobilisé une deuxième fois à 40 ans, il était l'un des plus vieux.
En tant que médecin à chaque fois.
Oui, médecin auxiliaire.
Voilà. Et vous racontez dans votre biographie qu'au fond, quand il est au front et après en Allemagne, parce que lui ne va pas rentrer en même temps que les autres soldats, vous allez peut-être nous en dire un mot, au fond, ce qui le fait beaucoup souffrir, c'est d'être loin de Paris où Cocteau, Breton, Soupeau sont en train d'inventer quelque chose et lui se sent exclu, un petit peu comme un enfant dans la cour d'école et loin de ses camarades.
Ah oui, parce que moi, c'est ce qui m'a intéressé en écrivant cette biographie, c'est-à-dire... On dit toujours la vie d'un écrivain ou la vie d'un homme. Mais en fait, chacun d'entre nous a plusieurs vies en même temps. Et elles évoluent à des rythmes différents, elles se croisent, elles se rapprochent, elles s'écartent, etc. Donc comment raconter la vie d'un individu ? Bien sûr, Aragon est à la guerre, mais en même temps, il mène une autre vie qui est sa vie de poète, et un poète qui souffre effectivement d'être exilé de Paris. Donc pour dire les choses de manière un peu familière, Aragon va traverser une grave dépression parce que pendant un an, il reste sous les drapeaux, il reste sous l'uniforme, il est envoyé en Allemagne, et pendant ce temps-là, ses camarades sont en train d'inventer ce qui deviendra bien plus tard, enfin quelques années plus tard, le surréalisme. Donc grâce à Lionel Follet, on a pu disposer depuis quelque temps, depuis pas très longtemps en fait, de la correspondance que Aragon a échangée à l'époque avec Cocteau et avec Breton, qui se détestaient. Aragon aimait d'une certaine manière Breton et Cocteau.
Mais oui, on a vraiment Cocteau... l'impression d'une histoire d'amour en lisant votre biographie.
Ah oui, c'est une sorte de triangle amoureux dans lequel chacun est jaloux de l'autre et chacun joue finalement de l'affection que l'autre lui porte afin de rendre le troisième plus jaloux encore. Et tout ça a un côté un peu dérisoire, mais aussi assez émouvant.
Donc en Allemagne, il écrit Anicé roman, et là, il tourne la page des écrivains et des poètes qui l'ont précédé, et notamment Rimbaud. On a l'impression qu'il a vraiment envie de se poser comme un représentant de la modernité et du coup de faire table rase.
Oui, c'est la grande question pour tous ces jeunes gens. Ils veulent être modernes, et c'est-à-dire plus modernes que ceux qui les ont précédés. Donc plus modernes qu'Apollinaire, qui vient de mourir, et qui a inventé le mot de surréalisme qu'ils vont reprendre à leur compte, et plus modernes que ceux qui l'ont précédé, Apollinaire, et notamment, il y a deux grandes figures pour les futurs surréalistes, c'est Rimbaud et l'autre est Hamon. Et Anicet au Panorama Roman, qui est un livre que je connais bien, puisque je l'ai édité dans la Pléiade, est un livre tout à fait étonnant, parce qu'en fait c'est une sorte de roman à clé, dans lequel Aragon se met en scène aux côtés de Breton, mais aux côtés aussi de toute une série d'autres personnages, qui sont Jacques Vacher, Apollinaire, mais aussi Charlie Chaplin, Jarry, d'autres encore.
C'est un roman pour se positionner.
Voilà, c'est un roman dans lequel Aragon, de manière très complexe et très ambivalente, essaye de montrer comment Breton et lui sont en position finalement de dépasser tous les maîtres de la modernité dans lesquels ils ont appris à lire.
Et ce qu'ils ne vont pas tarder à faire, nous poursuivons cette discussion avec vous dans quelques minutes, Philippe Forest, mais tout de suite sur France Culture, il est 15h30. C'est le moment de retrouver notre séquence habituelle en compagnie des revues. Nous avons le plaisir d'être rejoints aujourd'hui par Julien Bisson du magazine Lire. Bonjour Julien.
Bonjour Mathieu.
Vous venez nous voir pour parler littérature sud-coréenne. C'est l'objet d'un dossier dans votre magazine et la Corée sera à l'honneur lors du Salon du Livre de Paris cette année.
Oui Mathieu, la Corée du Sud qui est le pays invité de Livre Paris, puisque c'est ainsi qu'il faut désormais nommer le Salon du Livre.
Et oui.
Et qui enverra dans quelques jours, porte de Versailles, une délégation forte, une trentaine d'écrivains, essayistes, poètes, illustrateurs jeunesse ou auteurs de manhwa, l'équivalent coréen du manga japonais. La Corée du Sud, pays invité du salon, c'est une bonne nouvelle. Pour les lecteurs d'abord, qui pourront découvrir des auteurs de talent et souvent trop peu médiatisés en France, comme Wang Sung-kyung, Kim Jong-ha ou Han Kang, notamment, dont les romans explorent la diversité d'une culture marquée par l'histoire mouvementée du pays entre dictature et ouverture sur le monde. C'est une bonne nouvelle pour les éditeurs ensuite, qui, loin du règne anglo-saxon, se battent année après année pour défendre une littérature alternative, chez Philippe Piquet, chez Actes Sud ou chez Zulma notamment. C'est une bonne nouvelle, surtout pour la littérature coréenne elle-même, qui voit là se concrétiser ses efforts pour sortir de ses frontières et toucher un lectorat international.
Alors ces efforts, c'est le résultat d'une volonté délibérée ?
Oui, c'est même le résultat d'une politique de promotion particulièrement active. Le Monde n'a pas attendu la présentation des nouveaux téléphones Samsung pour connaître les ambitions du pays du matin calme dans les domaines du commerce, de la technologie ou de l'industrie. On sait moins en revanche combien la Corée fait aussi figure de dragon tout feu tout flamme dans la sphère culturelle. Que ce soit dans les jeux vidéo, le cinéma ou même l'industrie musicale. Vous n'avez pas oublié, cher Mathieu, le succès global du Gangnam Style ?
Non, comment l'oublier malheureusement ?
La Corée du Sud a promu ces dernières années une forme de soft power qui s'étend logiquement jusqu'à la littérature. C'est ainsi qu'en 1996 a été créé le Korean Literature Translation Institute, un organisme public chargé de subventionner massivement certains livres pour qu'ils soient traduits et diffusés à l'étranger. Parmi ses prérogatives, citons la sélection des ouvrages, la rémunération des traducteurs ou encore le règlement d'une partie des frais de fabrication et de promotion, de quoi rassurer les éditeurs étrangers les plus frileux. Le résultat de cette politique, c'est bien l'émergence à l'international de jeunes auteurs encore incarnant la Corée moderne, au prix peut-être d'un dirigisme culturel sujet à question dans un pays qui n'a jamais totalement tourné le dos à l'autoritarisme.
Et en Corée du Nord, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il y a une vraie littérature nord-coréenne ?
Elle existe contre toute attente et elle ne manque pas d'intérêt. Deux ouvrages viennent d'ailleurs en faire la preuve ce printemps. Le premier, Le rire de 17 personnes, est publié chez Actes Sud. C'est un recueil de nouvelles contemporaines, teintées de réalisme socialiste, qui ne force certes pas sur la critique du régime, mais livre quelques images singulières et inédites de ce pays interdit. Le second est plus fascinant encore. La dénonciation, publiée chez Piquet, dont nous proposons des extraits d'en lire, est l'œuvre d'un certain Bandit, un écrivain dissident dont on ne connaîtra pas l'identité, mais dont les textes auraient réussi à passer la frontière sous le manteau, à la manière d'un Solzhenitsyn nord-coréen. Bandit, c'est un nom qui signifie « luciole », comme un reflet de la lumière crue qu'il vient porter sur ce monde de ténèbres. En préambule, l'auteur avertit ainsi son lecteur « Je vis en Corée du Nord depuis 50 ans, comme une machine parlante, comme un homme attelé à un joug. J'ai écrit ces histoires poussées non par le talent, mais par l'indignation, et je ne me suis pas servi d'une plume et d'encre, mais de mes os et de mes larmes de sang. » La suite, ce sont 7 nouvelles entre émotion, ironie et critique au vitriol. Alors, si vous voulez tout savoir sur le culte de la famille Kim, la toute-puissance de la nomenclatura, l'injustice du système de caste ou la propagande du régime de Pyongyang, lisez cet ouvrage, La Dénonciation, car vous ne verrez pas son auteur cette année dans les travées du Salon du Livre.
Travées des Salons du Livre, où nous serons, nous, en tous les cas, jeudi pour le dernier direct de cette semaine Aragon. Merci Julien Bisson, on vous retrouvera régulièrement à ce micro et dans l'intervalle, bien entendu, dans les colonnes du magazine Lire.
c'est dans la maison des Amis des Livres que j'ai rencontré pour la première fois Louis Aragon. Il était extrêmement brillant, extrêmement bavard, extrêmement érudit, mais il avait une sorte de fascination pour Villon. Et alors que nous étions déjà admirateurs d'Apollinaire, de Reverdy. Mais bientôt, Aragon, qui a une puissance d'assimilation extraordinaire, a tout de même compris ce que représentaient les champs magnétiques. Et c'est le premier. Car ni André Breton, ni moi-même, nous n'étions pas du tout sûrs de ce que représentaient les champs magnétiques. Nous n'avions pas encore compris l'importance de l'écriture automatique. Et c'est grâce à Louis Aragon, il faut le reconnaître, que nous avons compris ce que nous avions voulu faire. Et Aragon s'est montré enthousiaste, et comme toujours, avec cette puissance d'assimilation qu'il avait, il a premier vu l'importance de notre expérience. Et je dois dire que c'est grâce à lui si nous avons publié les premiers chapitres des champs magnétiques dans notre revue littérature. Sans lui, nous n'aurions probablement laissé de côté ces expériences. Et je dois dire aussi que c'est lui qui, le premier, a en somme fait écrire un manifeste du surréalisme dans une vague de rêves. C'est donc lui, Aragon, qui a saisi l'importance que nous n'attachions pas à ce que nous avions commencé de faire. Et bien sûr, quand je revois cette époque, je me dis que c'était tout de même une chose extrêmement importante d'avoir l'avis et l'encouragement d'Aragon, qui pour nous était un homme qui importait beaucoup. J'étais le seul peut-être dont l'amitié nous rattachait au monde extérieur.
Archives de Philippe Soupeau. Vous êtes d'accord, Philippe Forest? Est-ce que Aragon aurait saisi l'importance des champs magnétiques davantage que leurs auteurs?
C'est sans doute, si Soupeau le dit, c'est que ça doit être vrai, mais c'est intéressant qu'il le dise, parce que justement, dans l'historiographie officielle du surréalisme, on a souvent tendance à présenter un peu Aragon comme un auteur mineur et comme un suiveur, alors qu'il a été à la pointe du mouvement et qu'il a certainement encouragé, comme le dit Soupeau, Breton et Soupeau, à aller plus loin sur le chemin qu'ils avaient ouvert.
Pourtant, il a l'air de se présenter quand même toujours dans l'ombre de Breton, qu'il admire énormément.
Oui, mais justement, le premier roman d'Aragon dont on parlait il y a un instant, Anicet ou le Panorama roman, montre bien à quel point Aragon a été aussi sous la domination affective et intellectuelle de Breton, ce qui n'empêche qu'il a été aussi l'un des initiateurs du mouvement surréaliste, plus donc qu'on le dit d'ordinaire.
Oui, qu'il a écrit, c'est ce que dit Soupeau, hein, un manifeste surréaliste. Avant celui de Breton.
Une vague de c'est discuté par les spécialistes, mais il semble vraisemblable, les deux textes paraissent à peu près au même moment, mais il semble vraisemblable qu'une vague de rêve ait précédé effectivement le manifeste du surréalisme, donc en 1924, et puis même avant, c'est ce que je montre dans la biographie, ce sont des choses qui n'ont pas encore été assez étudiées, je crois, dont on trouve dans la correspondance entre Breton et Aragon des lettres qui montrent que si Aragon n'a pas inventé l'écriture automatique, en tout cas, il a pensé quelque chose qui ressemblait un peu des avant Breton.
Et là, il faut peut-être parler du Paysan de Paris, qui est un... Alors, est-ce que c'est un roman surréaliste? Est-ce que c'est un poème? Qu'est-ce que c'est, en fait, le Paysan de Paris?
Un roman surréaliste, en principe, ça n'existe pas, puisque Breton, dans le manifeste de 1924, condamne le roman comme un genre régressif avec lequel il faut rompre. Mais justement, Aragon, et ça donne un élément de plus pour comprendre ce dont on parlait précédemment, Aragon est à la fois proche de Breton et distant de lui, et notamment sur cette question du roman. Aragon ne veut pas, il le dit, renoncer au roman, et il pense que le surréalisme a vocation à se saisir du roman aussi. Et donc, il produit ce texte qui va causer la consternation chez les épigones du surréalisme, chez les disciples d'André Breton, le Paysan de Paris, qui est sans doute un roman surréaliste, mais qui est surtout un des très grands romans du XXe siècle. On a un peu tendance à l'oublier parce que on considère ça comme un texte un peu pittoresque sur le Paris des années folles. Bon, mais Walter Benjamin, qui est devenu une autorité que personne ne conteste, Walter Benjamin disait que l'éblouissement avait été le sien lorsqu'il a découvert Le Paysan de Paris, et sans doute que la réflexion que Benjamin a conduite par la suite sur les passages parisiens, elle vient directement de sa lecture du Paysan de Paris, puisque Aragon y raconte sa promenade dans le passage de l'Opéra et dans le jardin des Buttes-Chaumont.
Et pour vous aussi, c'est un des sommets de la littérature d'Aragon.
Ah oui, c'est même un des sommets, oui, de la littérature du XXe siècle. C'est un roman qui déconstruit le genre romanesque, qui parcourt tous les registres. Aragon disait un peu en plaisantant qu'il avait fait faire un pas de plus à la métaphysique avec ce livre. La modestie n'était pas la qualité essentielle d'Aragon, mais il n'est pas loin de dire vrai. Il y a une vraie profondeur philosophique qui fait que ce texte vaut sur le terrain de la pensée, l'œuvre de Benjamin dont on parlait il y a un instant, ou celle de Georges Bataille, il y a des liens aussi.
Et Paris aussi, comment se représente-t-il et comment représente-t-il la capitale?
Ah bah Paris, c'est sa ville. Vraisemblablement, encore qu'on n'en soit pas tout à fait sûr, il est né à Paris, il est mort à Paris.
Pas à Madrid en tout cas, ça c'est ce qu'on sait maintenant.
Il a vécu l'essentiel de son existence à Paris et il a souffert de l'exil auquel il a été contraint, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a des poèmes magnifiques d'Aragon sur Paris.
Dès cette époque, Philippe Forest, il faudrait parler d'amour chez Aragon. Vous n'abordez pas tout de suite cette question,
non,
vous laissez passer quand même un certain nombre de chapitres, et puis à un moment donné, vous avouez que le lecteur, effectivement, aimerait en savoir plus. Alors, il déclare placer l'amour au-dessus de tout. Est-ce que c'est le cas et quel type d'amour ?
On sait peu de choses sur les premières amours d'Aragon, mais enfin, il prétendait, et c'était sans doute vrai, avoir été très précoce, donc avoir eu...
Il le dit d'ailleurs dans la première archive qu'on a entendue,
oui.
Avec un peu de forfanterie quand même.
Oui, c'est comme l'immodestie, la forfanterie, ça va un peu de pair. Et il y a aussi une pause de la part d'Aragon sur le terrain érotique. Ce qu'on connaît, c'est ses premières grandes amours avec une femme qui d'abord a été la maîtresse de Drieux-La Rochelle, une autre qui deviendra la femme d'un autre surréaliste, Pierre Naville.
Donc il se passe comme ça. Les femmes,
oui.
Drieux et Aragon.
Voilà, oui. C'est tout à fait comme ça que ça se passe. On ne sait pas très bien s'il tombe amoureux des mêmes femmes parce que justement ce sont les mêmes et qu'il s'imagine ainsi les partager. Parce qu'il y a une dimension aussi homo-érotique, très certainement dans ses premières amours d'Aragon, un homo-érotisme qui ressurgira à la fin de la vie de l'écrivain. Mais en même temps, j'aime pas trop employer ces catégorie-là, parce que Aragon lui-même y répugnait. Il y a un texte formidable que je cite un peu longuement dans ma biographie, qui est le texte du débat que les surréalistes avaient eu les uns avec les autres sur la question de la sexualité. C'est une sorte de jeu de la vérité. Ils se promettaient de vouloir tout dire, presque de façon scientifique, sur leur propre rapport au sexe. Et le résultat est souvent assez concernant, parce qu'ils font tous un peu à saut de forfanterie pour prouver qu'ils sont plus virils que leurs camarades. Et le seul, enfin l'un des seuls, ce n'est pas le seul, il y a aussi Prévert, Queneau, etc. Mais disons que celui qui se démarque le plus, c'est Aragon qui dit « Il n'y a pas de règles en amour, il n'y a pas de normes en amour, toute liberté en amour, quelle que soit la forme que l'amour prend. » D'où son féminisme. Et il est le seul, dans un milieu qui est quand même très machiste, il est le seul à dire que la femme a des droits équivalents à l'homme en amour.
Donc il y a plusieurs femmes qui se succèdent, R de Lanu, c'est comme
oui.
Ça qu'on prononce.
Je sais pas trop.
Denise Lévy et puis Nancy Cunard, oui. Qui a une importance presque aussi grande qu'Elsa aura par la suite.
Oui, Elsa prétendait que les plus beaux poèmes d'amour qu'Aragon avait écrits, il les avait écrits pour ou à cause de Nancy Cunard. Il y en a un qui est magnifique, notamment qui s'appelle « Poème à crier dans les ruines », qui est le poème qu'Aragon a signé après, a écrit après, après sa séparation d'avec Nancy Cunard, qui était un personnage absolument étonnant, flamboyant.
Qui passait elle aussi, enfin, d'homme en homme, quoi.
Oui, oui, et qui était la, qui était poète, qui était proche d'un certain nombre de grands écrivains de l'avant-garde littéraire anglophone, anglaise ou irlandaise ou américaine, qui était la fille d'un milliardaire et qui était une dévoreuse d'hommes. Qui a jeté son dévolu sur Aragon, parce qu'Aragon en général aimait bien se laisser conquérir, se laisser séduire. C'est ce qui s'est passé à peu près avec toutes les femmes qu'il a connues, qu'il s'agisse d'Elsa Triolet plus tard ou de Nancy Cunard avant elle.
Et c'est donc sous ses yeux qu'il brûle le manuscrit d'un roman célèbre par son absence qui s'appelle La Défense de l'Infini.
Oui, c'est ce qu'il a raconté. On n'en est pas trop sûr non plus. Tout ce qu'on sait, c'est qu'Aragon travaillait depuis des années sur ce livre qui aurait dû être son chef-d'œuvre, dont, dit-il, le manuscrit comptait plusieurs milliers de pages. Et en un geste sans doute de dépit amoureux, de provocation, un geste de par lequel s'exprimait une sorte de pulsion suicidaire, autodestructrice, Aragon aurait brûlé sous les yeux donc de Nancy Cunard dans la chambre qu'il partageait à Madrid une grande partie du manuscrit
dont il réapparaît régulièrement des morceaux.
Voilà, et il avait lui-même publié des extraits en revue, donc c'est ce qui a permis de publier ce livre, parce qu'on a quand même les vestiges, disons, du livre, donc on peut essayer de les mettre ensemble pour voir ce que ça aurait donné, mais les pièces, le plus grand nombre de pièces du puzzle nous manque.
C'est de toute façon quelqu'un qui aime brûler ses vaisseaux. À peu près à la même époque, il va décider de ne pas poursuivre ses études de médecine. Mmh. Et au fond, pour être libre, il va se mettre dans une situation où, sans argent, il n'est finalement pas très libre, Philippe Forest.
Oui, pour survivre, parce que sa famille lui coupe les vivres, comme on disait, et parce que il est presque sur le point de devenir médecin. Il lui reste ses derniers examens à passer, et le jour où il doit les passer, il se rend à l'épreuve. Et dit-il, mais là encore, c'est un peu de forfanterie de sa part, comme il connaît trop bien les réponses à la question posée par l'examinateur, il décide de partir. Voilà, donc pour ne pas devenir médecin. Et donc il est obligé de travailler grâce à André Breton pour le compte du grand Doucet, le grand couturier qui à l'époque est un mécène qui fait travailler un certain nombre de jeunes artistes, de jeunes écrivains pour lui, et Aragon est chargé de lui constituer une bibliothèque.
Mais quel paradoxe extraordinaire, finalement, de se mettre sous la coupe d'un riche couturier pour soi-disant être plus libre.
Oui, mais ça durera pas longtemps, parce que après, quand Aragon rejoint le Parti communiste en 27, justement tirant les conséquences de l'engagement politique qui est le sien, il décide de renoncer à l'argent que lui verse Doucet, et une fois de plus, il se retrouve sans un sou.
Le village était vide. Les points d'accrochage des deux côtés tiraillaient, canardaient à 500 mètres. Depuis une heure déjà, l'agglomération était abandonnée par les dragons et les chars détruits. 11 chars français jonchaient les rues. Il n'y avait que des morts. Les uns dans les tourelles, d'autres qui avaient sauté à bas. Le cadavre d'un conducteur sur la porte d'une maison. Les murs éventrés. Le char du mort, probablement, qui a été se coincer là. Les maisons ici, ce n'était pas de la pierre, ça s'effondrait facilement. Jean était descendu du siège. Il touchait les corps avec une sorte de peur. À l'hôpital, il avait vu des Maccabées, rien de comparable. Retourné comme ça, un homme jeune, fort, qui semble simplement accroupi dans une drôle de pose. Et il retombe, et on voit tout à coup le visage.
Un extrait des Communistes lu par Michel Bouquet, livre dans lequel Aragon raconte le début de la Seconde Guerre mondiale. On va devoir avancer à pas de géant pour raconter très brièvement la fin, la deuxième partie, disons, de la vie d'Aragon, qui commence donc avec cette Seconde Guerre mondiale et un épisode très important dans la Résistance.
Oui, c'est difficile de faire vite parce qu'il y a beaucoup d'événements qui se sont succédés, mais après un certain nombre d'hésitations liées notamment aux conséquences du pacte germano-soviétique, à la façon dont le Parti communiste est interdit, et donc Aragon se trouve complètement coupé de ses camarades, donc après quelques mois, Aragon rentre dans la Résistance, dont il va devenir l'un des principaux, l'une des voix principales, mais aussi l'un des organisateurs principaux, enfin de la Résistance intellectuelle, mais ça n'est pas rien.
Donc ça, c'est à travers un organisme, le Comité National des Écrivains, qui est un organisme parallèle au Parti communiste.
Oui, il y a toutes sortes de structures clandestines qu'Aragon est chargé de mettre en place, notamment dans la zone sud, puisque c'est là qu'il vit pendant la guerre. Et il va publier aux éditions de Minuit ou à la Bibliothèque française, qui est un peu l'équivalent en zone sud, notamment un texte qui est absolument décisif et qui, à mon sens, est trop peu connu, qui est le Musée Grévin, dans lequel Aragon, je crois, enfin personne ne m'a prouvé le contraire jusqu'à présent, et le premier poète à écrire sur Auschwitz grâce aux renseignements qu'il avait obtenus et dont il a fait état aussi dans le magazine clandestin qu'il dirigeait qui s'appelait Les Étoiles. Donc il dit les choses sur l'extermination, sur l'existence des chambres à gaz en plein milieu de la guerre.
Ce qui fait que au sortir de la guerre, il est une figure très importante avec Elsa aussi, sa femme qui était elle aussi dans la résistance, et il va prendre cette espèce de stature, toujours en lien avec son image de communiste, qu'il va garder presque jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à une dernière période qui couvre au fond le moment entre lequel Elsa meurt et la fin de sa vie. Mmh. Donc il y a ce moment où il est un espèce d'écrivain officiel. Ouais. On a du mal à s'en rendre compte aujourd'hui.
Bah, il faut dire les choses comme elles sont, hein, même si ça ne fait pas plaisir à tout le monde. Aragon a été stalinien au moment de la guerre froide, et il y a un nombre de prises de position qui ne l'honore pas. Il a exercé un véritable magistère, même s'il a toujours été en difficulté au sein de son propre parti, parce que justement, on le jugeait encore trop peu stalinien par rapport à ce qui aurait dû être la norme. Et puis après, il y a toute la période de la déstalinisation, et là, Aragon va jouer un rôle tout à fait essentiel, hein, en favorisant, après la mort de Thorez, au sein du Parti communiste, ce phénomène de la déstalinisation, jusqu'à prendre des positions qui sont des positions assez étonnantes. Hein, au moment de mai 68, au début des 70, il soutient les gens qui contestent le régime soviétique dans les pays de l'Est. Il soutient, disons, pour faire vite, ce qu'on appellera des dissidents.
Mais quand même, après avoir travaillé si longtemps sur Aragon et cette question du stalinisme, qui reste vraiment le point d'achoppement principal sur cette figure d'Aragon, quelle est votre intime conviction ?
Sur le point de savoir s'il a été ou non stalinien ?
Oui, enfin sur le point de savoir s'il aurait pu et s'il aurait dû comprendre ou dire des choses qu'il savait.
Mais ça, je me garde de porter un jugement trop expéditif, parce que je crois que tous les jugements qu'on peut porter sont des jugements rétrospectifs. Moi, c'est quelque chose sur quoi j'avais écrit dans mon roman Le siècle des nuages. Je pense qu'il faut être très, très prudent. Mais être très prudent, ça n'oblige pas à être complaisant. Aragon savait ce qu'il en était de la nature du système soviétique.
Alors pourquoi, au fond, rester si tard quand même du mauvais côté ?
Il l'a dit lui-même, il est quelqu'un qui croit désespérément. Croire désespérément, ça veut dire croire avec l'énergie du désespoir, ça veut dire aussi croire sans espoir. Il a pris un pari et il a tenu ce pari tout en ayant sous les yeux un certain nombre d'éléments qui aurait dû peut-être, mais j'en sais rien moi, après tout c'est chacun qui juge en son âme et conscience, mais il a vu un certain nombre de choses qui auraient dû le détourner du communisme, mais en dépit de ces choses qu'il a vues, il est resté malgré tout fidèle à cet idéal jusqu'au bout.
Et le dernier Aragon, alors celui d'après la mort d'Elsa, ce dandy qui fréquente des garçons, qui patronne les écrivains les plus en vue, les plus à la mode.
Avec beaucoup de lucidité, hein. C'est quelqu'un qui était très attentif aux jeunes écrivains, aux jeunes artistes, et donc ça s'était mettre à son crédit. Après, il n'y a pas lieu de juger Aragon sur le terrain de la morale sexuelle, c'est ce qui s'est fait beaucoup à l'époque, notamment parce que son comportement cadrait quand même assez peu avec celui qu'on attendait d'un membre du comité central du parti communiste. Je crois que c'est encore une preuve de la liberté d'Aragon et de son courage.
Et qui lui a valu beaucoup d'ennemis. Merci beaucoup, Philippe Forest.
Holy, holy, holy.
Et à 15h54 sur France Culture, c'est le moment de retrouver notre séquence de lecture de poésie. Toute la semaine, Jacques Bonafé vous propose une sélection de poètes libertaires d'Iran, récemment traduits par Reza Afshar Naderi.
Bonjour, bonjour. Les éditeurs nous envoient bien sûr des nouvelles, et il y en a dans la publication de la poésie. Le bruit du temps, édition bilingue. En voici une autre d'édition bilingue. Le Temps des Cerises a édité la revue de la Maison de la Poésie Rhône-Alpes, Bacchanal numéro 54, et elle se nomme Aube Nouvelle, poète libertaire d'Iran. C'est une présentation, un travail qui a été fait par Reza Afjar Naderi. La traduction en est magnifique, la traduction qu'il a faite, et ainsi que quelques mots de la postface. Je suis en train de les chercher. Le poète est musicien dans l'âme, quel que soit le moule formel dans lequel il s'exprime. La rime pourrait disparaître du paysage, la régularité du nombre de pieds ne plus compter dans une mise en forme qui se veut moderne, la musique sera toujours là. Comment l'éprouver ? En clamant les mots à voix haute afin de révéler des sonorités que l'on n'aurait que pressenties lors de lectures silencieuses. Il n'est pas un des 7 poètes traduits dans ce recueil qui n'ait scandé à voix haute en public ou lors d'enregistrement ses propres compositions ou celles d'auteurs qu'il révère. Voici le premier qui se présente à nos yeux, Nima Yushij. En lisant « Ohé les humains » de Nima Yushij, les images présentes de traversées et d'exil nous frappent. « Ohé les humains qui êtes assis sur la rive si rieur et radieux, une personne est dans l'eau qui s'en va rendre l'âme, une personne qui sans cesse est en train de battre des mains et des pieds sur cette mer violente et sombre et lourde que vous savez. En ce moment où vous êtes ivre de vous croire venu à bout de l'ennemi, en ce moment où en vain vous songez avoir prêté main à l'impuissant afin d'engendrer une plus forte emprise, en ce moment où étroitement vous resserrez sur vos tailles la ceinture, moi, à quel moment devrais-je dire qu'une personne est dans l'eau qui sacrifie son âme ? Ohé, les humains qui sur la rive tenaient un étal enchanteur, sur la nappe le pain posé, sur le corps porté votre habit, une personne dans l'eau vous hèle. Il martèle la lourde vague de sa main harassée. Il garde la bouche ouverte, l'œil meurtri d'effroi, ayant vu vos ombres depuis le lointain, ayant avalé l'eau dans un obscur puits bleu, et chaque instant, sa hâte multipliée de ses os, il ressort, la tête par moment et par moment un pied. Ohé, les humains ! Du lointain, il épie encore ce vieux monde. Il crie avec l'espoir d'une aide à venir. Ohé, les humains qui sur la rive reposée vous a donné à la contemplation. La vague frappe sur la rive silencieuse. Elle se répand, elle un ivrogne en quelques lieues. Alors elle s'en va sans raison. Rugissante, cette clameur revient encore de loin. Ohé, les humains ! Puis la voix du vent plus déchirante chaque instant, dans la voix du vent son cri plus détaché, d'entre les eaux proches ou lointaines, encore il y a dans l'oreille ses appels. Ohé, les humains !
Parler de Paradise Lost ou du profil gracieux et anonyme qui tremble dans les soleils de Shakespeare.
Jacques Bonafé lisait des poèmes consacrés à l'Iran dans la compagnie des auteurs au terme du premier volet de notre série consacrée à Aragon avec Philippe Forest, dont je rappelle la biographie parue à l'automne dernier chez Gallimard. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast en attendant demain et une autre émission, cette fois sur la poésie d'Aragon avec Olivier Barbaran. Elle était réalisée aujourd'hui, notre compagnie des auteurs, par Laurence Millet. À la console, il y avait Philippe Bredin. Merci à Pascaline Bonnet, Didier Pinot, Anne-Vanessa Prévost et Sophie de Lombarès, sans qui cette émission ne pourrait avoir lieu. Tout de suite, en cette deuxième journée de la langue française dans les médias, on retrouve le dictionnaire intime de la langue française par Dany Laferrière.
We'll be right back.